France Info.
Bonsoir à tous. Programme et casting olympique ce soir dans les informés. J-100 pour Paris 2024. C'était une journée spéciale sur France Info et on va se demander au final que seront des jeux réussis, des médailles ou plus que ça. Le gouvernement convaincra-t-il, lui, les Européens avec sa copie rendue ce matin pour enrayer la spirale des déficits? Pas crédible, pas cohérent, dit en tout cas le Haut Conseil des Finances Publiques. On posera la question à Emmanuel Auriol qui est économiste, professeur à la Toulouse School of Economics. Et puis l'université de Lille, elle, annule le meeting sur la Palestine prévu demain avec Jean-Luc Mélenchon. Les insoumis crient à la censure. La gauche se déchire sur ce conflit israélo-palestinien. On parle de tout ça avec les informés de ce soir qui sont François Reynhardt, chroniqueur au Nouvel Obs, Elsa Fresnay, grand reporter aux Échos, et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France, avec Philippe Randé de la direction des sports de Radio France pour cette première partie. Bonsoir à tous. Des jeux réussis, ce serait quoi selon vous? Vous nous direz dans un instant. Question posée ce matin à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui était l'invitée du 8h30 France Info à l'occasion de ce J-100.
Il faut, pour qu'on réussisse des grands jeux, il faut qu'on ait quatre choses. Il faut qu'on ait une organisation qui soit aussi irréprochable que possible. Il faut qu'on ait un engagement de tous les territoires, que les Français, et on y travaille d'arrache-pied, sentent que c'est leur jeu. Et il faut qu'on ait un héritage qui soit bien pensé, bien préparé, à la fois sur le plan de l'accueil sportif au lendemain des Jeux, mais aussi sur toutes les transformations durables, la baignabilité de la Seine et de la Marne, la faculté à transformer le village des athlètes, le village des médias, en des logements sociaux, des écoquartiers, des commerces, des services, etc. Et il y a une quatrième dimension qui est évidemment la réussite de nos athlètes. On est à J-100, il reste 500, 600, 700, 800 boulons à serrer, mais on est tous en équipe dans nos temps de passage et déterminés à livrer au pays les plus grands jeux de l'histoire.
Voilà, ça fait beaucoup de boulons. Je récapitule. 1, organisation. 2, engagement de tous. 3, héritage. Et 4, évidemment, dit-elle, la réussite sportive. Philippe Randé, allez, on va dire qu'organisation, engagement de tous, ça c'est un peu du team building peut-être. Et on peut se concentrer sur les deux autres.
Ben, on va se concentrer sur le sport. On va espérer pouvoir se concentrer sur le sport.
Alors... Qui pour vous, quand on enlève tout le reste, c'est ça qui fait la réussite pour une nation qui organise les Jeux?
Bah, il faut d'abord que la cérémonie d'ouverture se passe bien, comprenez que ce soit le plan A, et puis si cette cérémonie d'ouverture sur la scène se passe bien, il n'y a pas de raison que le lendemain, à partir de 8h30, ça commencera à 8h30 le samedi matin avec le badminton, il n'y a pas de raison que le lendemain ça se passe pas bien. Et puis évidemment, tous les regards seront braqués sur les médailles françaises, parce que des Jeux olympiques réussis, ce sont des Jeux avec le pays hôte qui gagne des médailles et qui entraîne un enthousiasme dans le pays, ça va de soi.
Alors, avant de rentrer dans le détail, globalement sur les quatre critères cités les uns les autres.
Bah, moi, j'ai envie de positiver, donc on n'a pas d'autre choix que d'être prêt, sinon on se ridiculise. Mais sur l'organisation...
C'est pas l'impression que vous avez ?
Non, sur l'organisation, il y a encore des points d'interrogation. Bon, on l'a dit sur la qualité de l'eau, ça a été déjà beaucoup dit. Il y a aussi sur les transports, quand même. Si en ce moment vous prenez le métro à Paris, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de lignes arrêtées précisément pour faire les réparations, etc. Et que la 14 n'est pas finie. Or ça va être un point.
Le prolongement doit être inauguré courant mai. Hein.
Oui, mais par exemple, alors pour y avoir consacré 6 pages en novembre à l'état des transports parisiens, je me souviens que Castex nous disait « On a un réseau obsolète, il y a au moins 8 lignes sur 10 qui ne sont plus en état d'assurer un service public de qualité. » Donc beaucoup de choses vont reposer, un, sur la réussite de la 14, et deux, sur les agents. Et n'oublions pas que nous sommes les premiers jeux de l'histoire en pleine ville. Donc c'est là que les transports deviennent stratégiques.
C'est plus que 500 ou 600 boulons, hein, ce que vous dites. François Reynhardt,
moi, je voulais dire que j'ai vu passer un article très intéressant dans Le Monde qui faisait les autres jeux à J-100. Et, c'est-à-dire Londres, Sydney, etc. Et à chaque fois, c'était ça marchera pas, on n'y arrivera pas, etc. Même ceux de Londres qui restent dans la mémoire collective comme ceux qui ont été super bien organisés, qui ont été très bien, très fonctionnés, etc. Il y avait des tas de on n'y arrivera pas, c'est mal organisé. Il y a des sociétés, la société de sécurité a fait faillite avant. Enfin, des tas de catastrophes. Donc bon, voilà, le côté on n'y arrivera pas, c'est toujours comme ça. Moi, je pense que l'autre chose aussi, comme le disait justement Elsa, comme c'est organisé en ville, ben On peut se dire, il y a quelque chose quand même formidable. Le monde entier va admirer Paris encore plus que le monde entier n'admire Paris habituellement. C'est quand même une ville qui est très aimée. Et là, on va la voir partout. Et puis, au-delà de Paris, la Seine-Saint-Denis, moi, ça me fait très plaisir. Ça, c'est le département le plus pauvre de France, dans lequel il y aura des tas d'épreuves, etc. Et donc, le fait que le monde entier entende parler de la Seine-Saint-Denis autrement que par, il y a de la drogue, il y a de la misère, il y a machin, bah, déjà, c'est bien.
Moi, je pense qu'en fait, la France sera prête à accueillir les Jeux en temps et en heure. Moi, là-dessus, j'ai assez peu de doutes. Je pense que l'héritage va être très intéressant. D'abord, on parle de la baignabilité de la Seine, mais ça veut dire que la Seine et la Marne, en fait, on pourra nager dans la Seine et la Marne à partir de 2025. Hein, je parle du commun des mortels. Et puis, dans l'héritage, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est qu'il y a aussi les Jeux paralympiques et qui font notamment tous les bus de Paris seront à quai adaptés. Donc, il y a plein de choses comme ça qui, moi, me paraissent très positives.
Alors, l'héritage, on en parlera. La partie sportive, le carton sportif français, Philippe Randé.
100% des médailles.
Non, mais qu'est-ce qu'on peut raisonnablement espérer? Le président dit top 5.
Oui, on avait dit 80 médailles à un moment donné. Maintenant, on parle de top 5. C'est plus facile.
C'est ça. Il paraît qu'il dit ça parce que c'est les titres, en fait.
Mais qu'est-ce que ça veut dire top 5?
Ça veut dire dans les 5 meilleurs pays en termes de médailles d'or. Ah, puisque le classement est fait en termes de médailles d'or. On y a été une seule fois dans le top 5. C'était Atlanta en 1996.
Une médaille d'or?
Une vingtaine. 43 médailles à Pékin en 2008. C'est le record de médailles. Il y en a eu 33 à Tokyo. Moi, je pense qu'on fera plus parce que à domicile, il y a ce qu'on appelle le home advantage, qui fait que traditionnellement, les pays qui organisent des Jeux Olympiques gagnent plus de médailles que 4 ans auparavant. Donc voilà, si on est dans les 3-5 pays, entre, on va dire, 50 et, 70 médailles, ça serait bien. Mais on a plein de sportifs qui vont gagner des médailles. Et on a plein de futurs stars dont on va beaucoup parler pendant les JO, c'est sûr.
Que le président redescendu, je sais pas comment dire, c'est l'ambition de 80 pour parler maintenant de top 5, ça signifie quelque chose, il s'est passé quelque chose pour vous?
Non, ça signifie que...
On lui a dit c'est pas crédible.
Non, ça signifie que ça veut pas dire grand chose de donner un nombre de médailles parce que ça reste quand même très aléatoire. Par contre, dire qu'on fera partie des 5 plus grandes nations au monde aux Jeux Olympiques, je pense que c'est peut-être plus parlant pour le grand public. Et puis, je pense que 80 médailles, c'était trop.
Les grands noms vraiment attendus.
Léon Marchand, évidemment, que tout le monde connaît. Il risque d'avoir plusieurs médailles. En judo, évidemment, il y a Riner et Agbenienou, qui sont deux superstars, Canon à l'épée, Pauline Ferrand-Prévot en VTT, tous les sports collectifs, hein, évidemment, Wembanyama en basket que tout le monde connaît dans le monde, le hand, Dupont en rugby, enfin des médailles.
Ce qu'on connaît pas, je vais pas vous demander, vous êtes pas Madame Soleil ou Monsieur Soleil, mais...
Je pense que dans les nouveaux sports,
on sponsoriserait qui?
Aller vers les nouveaux sports. Je pense que les nouveaux sports, ça va être une superbe découverte. L'escalade, le skate, le breaking, tous ces sports dont on parle peu et dont les billets se sont vendus le plus rapidement. Il y a un vrai engouement, notamment des jeunes, auprès de ces nouveaux sports, avec des gens qu'on connaît évidemment beaucoup moins que Teddy Riner.
Allez, on poursuit après le fil info, 20h11, Stéphane Milhomme.
Emmanuel Macron juge qu'il est du devoir de l'Union européenne d'élargir le champ des sanctions visant l'Iran, les suites de l'attaque de samedi dernier contre Israël. Déclaration avant une réunion des 27 sur le sujet. Le chef de l'État a déjà plaidé cet élargissement de sanctions devant les membres du G7. Jean-Luc Mélenchon tiendra coûte que coûte sa conférence demain à Lille sur la Palestine, mais dans un autre lieu. L'université lilloise l'a interdit dans ses locaux. Les responsables du campus avancent que les conditions ne sont plus réunies pour garantir la sérénité des débats. Des élus de droite contestent notamment l'affiche. Le chef républicain de la Chambre des représentants promet un vote ce samedi aux États-Unis pour l'Ukraine et Israël. Avant cela, Joe Biden presse une nouvelle fois et dans une tribune le Congrès américain pour voter le plan d'aide, enveloppe de 60 milliards de dollars promise depuis maintenant des mois. Et puis si vous voulez une place pour l'un des deux concerts ces prochains mois de Jules au Stade de France et au Vélodrome de Marseille, c'est trop tard, c'est tout vendu. Et en une demi-journée, le rappeur marseillais a même fait saturer les billetteries en ligne. Des places sont déjà à la revente sur d'autres sites.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés.
Bérangère Bonte.
On parle des Jeux à J-100 de Paris 2024, Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Vous avez raison, Stéphane Vernet, de le souligner. Sur ces nouveaux sports dont parlait Philippe Randé, il y en a qui vous amuse, le breaking dance, Stéphane Vernet, par exemple.
Je ne suis pas un spécialiste de la question. il y a le skate aussi.
Vous trouvez ça anecdotique ou vous trouvez ça...
Non,
c'est sympa.
Le skate, moi, je trouve ça très bien parce que effectivement, il faut des vraies qualités sportives et artistiques et
sans l'expérience.
Je suis bluffée à chaque fois quand je regarde des skateurs. Non, vraiment. Pas l'expérience, juste regarder.
J'aime bien le fait qu'il y en ait qui viennent et qu'il y en ait qui s'en vont à chaque fois des sports. Et alors j'ai cherché dans ce qui restait des autres Jeux Olympiques français de 1924, il reste une façade en hommage à la pelote basque dans Paris, dans le 16e arrondissement, parce que c'était un sport olympique que ça
une
n'est plus.
Hein. Une seule fois.
Alors, ça a été cas, sport c'est... olympique à Barcelone, ouais. En sport de démonstration aussi, la pelote basque,
ouais.
Je crois.
Ah, oui. Et donc il reste une façade qu'il faudra trouver, que les gens qui viennent à Paris peuvent essayer de trouver dans le 16e arrondissement.
Alors, si on parle de l'héritage, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà couvert des Jeux. Qui a couvert des Jeux par le passé ? Stéphane Vernet qui sourit.
Non, alors moi j'ai pas couvert les Jeux, mais je dois confesser que j'ai participé aux Jeux Olympiques du village vacances famille de Gap en 82. Mais j'ai pas eu de médaille parce que j'ai raté l'épreuve de la bille dans la bouche.
Vous faisiez les interviews à la fin.
Ouais, non, j'étais trop jeune. Mais...
Oui, en 2012 à Londres.
2012. Alors la question c'est, est-ce que Londres est peut-être un bon exemple d'ailleurs, mais quand on parle d'héritage, la Seine et la Marne, ça pourrait faire partie de l'héritage. Amélie Oudéa-Castéra le disait. Tout le monde ricane, notamment parce que l'ONG Surfrider Foundation a dit qu'on n'y était pas encore à la baignabilité. Vous y croyez, vous ?
Bah, moi, je trouve qu'il y a toujours un scepticisme des Parisiens parce que le premier à l'avoir promis, c'était en 90, c'était Jacques Chirac. Et c'est pas encore fait. En même temps, si on y arrive, ça sera une vraie performance. Enfin, franchement, c'est et de fait, quand même, ils font tout ce qu'ils peuvent pour y arriver.
Alors, il y a des
vrai ennemi, ouais. C'est la crue. Hein. C'est s'il pleut beaucoup.
Stéphane Vernet, qui a l'air d'avoir bossé le sujet.
Alors non, mais moi, je suis sûr qu'ils vont y arriver. En fait, le truc, c'est que pour les Jeux, c'est donc il y a 5 épreuves qui se disputeront entre le pont de le pont Alexandre III et le pont de l'Alma. Et après, l'idée, c'est de rendre la Seine et la Marne baignables pour les Parisiens, les citoyens, en 2025. C'est pas pour tout de suite. Et en fait, le plan qui a été mis en place a été assorti de gros moyens. C'est 1,2 milliard, si je me souviens bien, dont 700 millions donnés par l'État. Et en fait, ils sont au plan de charge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'ONG de surfeurs fait Surfrider fait ses analyses, ça n'a pas de sens. On est en pleine période de crue et en fait, les deux unités spéciales qui vont permettre d'enlever les bactéries qui posent problème dans la Seine, elles sont pas encore en service. Elles seront en service à partir du 1er juin. Donc c'est normal que l'eau.
Bassin de rétention aussi. Il y a cet immense bassin de rétention à Auxerre.
Il y en a plusieurs et ils ont raccordé toutes les. Il y a 250 péniches qui sont en cours de raccordement au réseau, etc. On sait déjà qu'il y en aura qu'une. Au moment des épreuves qui sera pas raccordée, mais l'État va la faire déplacer, en fait. Ils vont la mettre en vivant. Donc, moi, je suis sûr que ça va marcher. Le seul inconnu, c'est qu'il faut pas qu'il y ait des gros orages comme l'année dernière, au mois de juillet. Là, ce qui est prévu, c'est un report des épreuves, si nécessaire, de 24 à 48 heures. Mais s'il y a une période de très fort orage qui dure plusieurs jours, alors là, il peut y avoir un problème. Mais à part ça.
Mais j'allais vous dire, l'été dernier, ça devait même être en août, je pense, des épreuves, est-ce que c'était Coupe du Monde, Championnat du Monde, ont été annulées.
À cause de ça.
Suite à un orage.
Bah oui, oui.
Et ça, pour le coup, peut-être qu'il faut accepter.
Plus une
valve. Oui, mais ça, c'est l'orage.
Pas juste l'orage.
Ils ont pas eu de bol.
Plus une valve d'évacuation d'eau usée.
D'égout qui était pété, en fait.
Et qui s'est ouverte et qui aurait pas dû.
Ça peut quand même arriver.
Oui, mais en tout cas, bien sûr, mais ça, c'est ce qu'on peut pas contrôler. Il y a l'orage. S'il y a l'orage, ça va gâcher la cérémonie d'ouverture aussi. Mais en tout cas, moi, je trouve que le symbole est très beau parce que c'est un symbole qui parle à tout le monde. On s'est baigné dans la Seine et dans la Marne jusque très tard, hein, jusque dans les années 1920. Si vous allez vous promener sur les bords de la Marne, les gens connaissent pas Joinville-le-Pont, etc. Il reste des plongeoires et tout ça. On se baignait tout à fait naturellement là-dedans. Il y a plein de toiles impressionnistes avec des gens qui se baignent dans la Seine et dans la Marne. Et ça s'est arrêté avec l'idée que c'était, voilà, que ça ne pourrait jamais changer parce que là, il y avait de la pollution, les égouts, les machins. Et là, le fait qu'on arrive à rendre réversible ce mouvement, c'est formidable. Ça veut dire que j'espère que ça va donner envie à tous les maires de France de dire défendons nos rivières et les gens pour que les gens puissent se baigner dans les rivières.
C'est des énormes moyens et il faut pour le coup d'un budget.
Ce qu'on dit pas, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait ces travaux-là d'assainissement des eaux, etc. Ils datent pas du mois dernier en fait. Hein. Ça fait déjà des années qu'il y a des plans qui ont sont mis en place. On sait aujourd'hui que la qualité de l'eau fait qu'on est passé d'une dizaine d'espèces de poissons dans la Seine à 35, je crois. Donc voilà, on est au bout d'un truc qui va fonctionner.
Ils prenaient à Londres, ils avaient
et qui va dans le bon sens, encore une fois, qui fait plaisir. On est toujours dans un monde dans lequel tout ce qui est autour du climat, de l'environnement, etc., est anxiogène, parce qu'on a l'impression qu'on va toujours vers le pire. Là, on va un truc où on va vers le mieux, il faut s'en réjouir quand même.
Il y a des JO où ça a été tenté. Je parle pas du Brésil où je sais que c'était catastrophique et que précisément les nageurs se sont baignés dans des conditions qui étaient pas acceptables.
Et là il y a eu ça en
Est-ce
Angleterre.
Est-ce qu'à Londres, puisque vous y étiez, mais c'est pas un piège.
J'ai pas le souvenir, mais
quelque chose a été tenté pour faire des épreuves en eau vive.
J'en ai pas le souvenir, mais ce que je peux vous dire, c'est que les triathlètes, notamment, ont l'habitude de nager dans des eaux sales. Clairement.
Il y a pas longtemps, en Angleterre, il y a eu la célèbre épreuve de Oxford, Cambridge, d'aviron. Et après, ils se sont jetés dans l'eau pour fêter ça comme d'habitude. Et il y en a plein qui ont été malades.
Je peux me permettre juste de vous rappeler que Arthur Germain, le fils d'Anne Hidalgo, a descendu la Seine de la source jusqu'à la mer et qu'il n'est pas mort. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas une oreille qui lui a poussé au milieu du front. Donc c'est que ça doit être possible quand même.
Je voudrais qu'on dise un mot des équipements. Quand la ministre dit transformer le village des athlètes, le village des médias en quartier, éco-quartier, etc. Est-ce que ça a été conçu pour que ça fonctionne, ça, Philippe Randé, de ce que vous en savez?
C'est fait pour ça. Il y a très peu de nouveaux équipements.
C'est souvent conçu pour, et puis c'est pas forcément toujours le cas.
En tout cas, c'est l'objectif, puisqu'on parle de l'héritage des Jeux depuis 5-6 ans, comme Londres, d'ailleurs. Ils avaient parlé des Legacy Games à Londres. Ils avaient aussi cet objectif d'héritage. Il y a 2008. Oui, ça a fonctionné. Il y a un quartier à Londres qui s'appelle Stratford où a été construit le village olympique, où il y a une université qui est en train de se construire, où il y a des salles de spectacle, etc. Donc ils ont créé, comme à Barcelone. Barcelone, c'est un très bel exemple de réussite. Barcelone, à l'époque, était une ville qui se mourait, grise. Et puis les Jeux olympiques ont tout changé. Ils ont construit, ils étaient de dos à la mer. Ils ont construit ce nouveau village olympique face à la mer. Et c'est une ville qui s'est totalement développée grâce aux Jeux olympiques. Alors Paris n'a pas besoin des Jeux olympiques pour attirer plus de touristes. Il y en a déjà beaucoup, mais en tout cas pour le 93, et mon voisin l'a dit, pour le 93 c'est très important, notamment dans le village olympique et dans le village des médias qui seront deux nouveaux pôles transformés en logements et en nouveaux quartiers.
Et pour le coup,
je pense que le cauchemar dans la tête de tout le monde, c'est Athènes en fait. C'était Athènes, c'était quoi, 2004 Athènes, c'est
absolument.
Ça. Après, il y avait plein vous savez, les Grecs s'étaient surendettés pour faire des tas d'installations magnifiques, etc. Et après, elles sont restées. On appelle même ça les éléphants blancs. Vous saviez ça? C'était le mot. Vous connaissez ça, Philippe, ou pas?
Tout à fait. Oui. C'est nombreux équipements qui sont restés,
qui
ont pourri sur place. Et en fait, Rio a été un mauvais exemple aussi. Rio a été un mauvais exemple aussi.
Pour avoir eu la chance de couvrir ce Sotchi en hiver 2014, on se posait beaucoup de questions. Alors, il faudrait y retourner, j'avoue très simplement de ne pas y être retourné, mais il y avait des centaines, des milliers de logements, de chambres d'hôtel, etc., dont tout le monde pressentait qu'elles allaient rester vides ensuite.
Et donc je pense que maintenant, les Jeux post tout ça sont pensés pour éviter cette question-là, quand même.
Il faut forcément un héritage, parce que l'organisation des Jeux coûte tellement cher, réclame tellement de moyens, qu'il faut pouvoir dire quand même à la population qu'il y a un héritage. Et effectivement, pour avoir été à Barcelone la semaine dernière, il y a tout un quartier en bord de mer qui était le village olympique et qui a été transformé en logement. Et c'est une vraie réussite. On espère, mais nous, les développements, l'héritage, c'est plutôt mobilier, sera plutôt en Seine-Saint-Denis, parce que à Paris, vous construisez plus rien.
C'est un peu particulier quand même de se pencher sur l'héritage avant même de laisser passer, enfin que les Jeux aient eu lieu.
Oui, c'est étonnant le terme héritage avant de débuter, mais moi, je pense que le plus grand héritage, ça sera le sport et les gens qui vont faire du sport. C'est ce qu'on appelle la grande cause nationale. C'est 30 minutes de sport par jour.
Les citoyens, vous voulez dire, alors pour
les citoyens, tout à fait, monsieur et madame tout le monde. Et si on arrive à faire du sport aux Français, on n'est pas réputé pour, ça sera déjà une belle réussite et c'est plus important qu'une dizaine d'appartements dans un village des médias, je pense.
Il y a ça et aussi le fait de pouvoir aussi aider à faire changer le regard sur le handicap dans ce pays. En fait, à Londres, ça avait marché et donc là, c'est pour la première fois qu'on a les Jeux olympiques d'été et les Jeux paralympiques qui sont organisés dans un délai aussi court, aussi rapproché. Et je pense que ce sera le cas, que les Jeux paralympiques attireront énormément de monde, peut-être presque autant, voire plus que de spectateurs pour les Jeux olympiques.
On n'en est pas là à 30% de billets vendus seulement pour les Jeux paralympiques pour l'instant. Il y a encore du travail, mais ça va décoller.
Merci beaucoup Philippe Randé. Énorme dispositif sur France Info et sur Radio France, mais sur France Info notamment, avec une armée, si je puis dire, de consultants. Jean Galfione, Jean-François Lamour, Thierry Rey, Jacques Monclar pour le basket, Roxana Maracineanu, énormément de monde. Et et vous aux commandes avec Nathalie Yanetta. On suivra ça avec bonheur. Merci
avec
beaucoup
plaisir.
D'être venu nous éclairer. Fil Info 20h22, Stéphane Milhomme.
Emmanuel Macron demande à Gabriel Attal de lancer une grande concertation sur la question de la violence des mineurs. Elle doit commencer demain. Le Premier ministre se rendra d'ailleurs à Viry-Châtillon pour détailler un plan d'action sur l'autorité partout et pour tous. C'est dans cette ville de l'Essonne qu'a été tabassé à mort la semaine dernière un jeune de 15 ans. Pour réduire le déficit public de la France, ce n'est pas interdit de penser à l'impôt. Pierre Moscovici avance cette hypothèse sur France Info. Le Premier président de la Cour des comptes estime que le débat doit avoir lieu devant la représentation nationale. Le plan de stabilité a été présenté en Conseil des ministres. Il vise à ramener les déficits à 5% aujourd'hui, 2,9% espérés en 2027. À Bourges, deux policiers municipaux en garde à vue. Ils doivent préciser leur version. Après le refus d'obtempérer de lundi soir, un jeune de 22 ans est toujours entre la vie et la mort après avoir percuté un poteau avec son scooter. Stephen Williams remporte la flèche wallonne. Le cycliste britannique a réussi à distancer le Français Kevin Vauquelin, course marquée par un déluge de grêle et beaucoup d'abandon.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
On parle du déficit de la France avec François Reinhardt du Nouvel Obs, Elsa Fressonnet des Échos, Stéphane Vernet de Ouest-France et on accueille Emmanuel Auriol. Bonsoir à vous. Vous êtes économiste, professeur à la Toulouse School of Economics. Alors, pas crédible et pas cohérent, le programme de stabilité pour la période 2024-2027, présenté ce matin au Conseil des ministres, c'est pas moi qui le dis évidemment, mais le Haut Conseil des Finances Publiques. Le programme de stabilité en clair, c'est ce que la France doit envoyer à la Commission européenne et à ses partenaires européens pour expliquer comment elle compte ramener son déficit public sous les 3% du PIB en 2027. Elle y arrivera, affirme Bruno Le Maire. Je vous propose d'écouter le ministre des Finances qui s'exprimait depuis New York.
Je maintiens notre ambition qui est de revenir sous les 3% de déficit public en 2027. L'objectif est d'atteindre 2,9% de déficit en 2027. C'est l'objectif qui a été fixé par le président de la République, qui a été retenu par le gouvernement. Nous devons maintenant prendre toutes les décisions nécessaires pour atteindre cet objectif, revenir sous les 3% de déficit public en 2027. Et rétablir les comptes publics.
Voilà, et avant de vous faire réagir, Emmanuel Auriol, la réponse de Pierre Moscovici, qui préside le Haut Conseil des Finances Publiques, en plus de la Cour des Comptes, et qui était l'invité de France Info à 18h20.
Pour maintenir ce prix de croissance, il faudrait faire un effort en dépenses encore plus important. Et à l'inverse, si on fait l'effort demandé, si on met vraiment le paquet sur les économies, à ce moment-là, ça aura un impact sur la croissance. Forcément, si vous faites, par exemple, 27 milliards d'euros d'économies en 2025, ça a tendance à ralentir l'économie. Et à ce moment-là, les prévisions de croissance ne seront pas au rendez-vous. Donc la croissance sera moindre. Et avec une moindre croissance, vous devrez faire encore plus d'économies. Mmh. Donc, tout ça ne nous paraît pas cohérent et difficilement compatible. Et je pense qu'il faut dire la vérité aux Français et puis faire des choix, au fond. Vous dites qu'on est très critique. On n'est pas critique, c'est la situation qui est préoccupante.
Voilà, pas cohérent, pas crédible, dit Pierre Moscovici. Emmanuel Auriol, cette copie du gouvernement, pour vous aussi, ça manque de crédibilité et de cohérence pour enrayer cette spirale des dépenses et des déficits publics?
Oui, alors c'est vrai que c'est très optimiste, notamment sur les prévisions alors de croissance en 2025 et jusqu'à 2027. C'est aussi très optimiste, je trouve, sur la capacité de l'État à réduire donc ce déficit, à le ramener sous la barre des 3%. Il faut que les Français mesurent qu'il est aujourd'hui à 5,5% de notre PIB. Donc, on est très loin des 3% annoncés et c'est demain qu'il faut
dans 3 ans,
y arriver. Oui. Oui, donc c'est vraiment très rapide. Donc, ce que propose l'État, en fait, dans cette copie, mais qui est destinée à l'européenne, c'est de dire bon, on va réduire la dépense publique, mais ils sont pas très précis sur comment ils entendent faire ça. Et bon, s'ils ne les impôts, ce qui est tout à fait louable, bien évidemment, il va falloir qu'ils expliquent comment ils vont réduire cette dépense publique et arriver à diminuer donc notre déficit. Je pense que c'est indispensable, personnellement. Nous sommes le pays de la zone euro
qui met en le. La hausse des impôts, vous voulez dire?
diminuer nos déficits et ramener notre dette à un niveau qui est soutenable. Nous sommes le pays de la zone euro qui émet le plus de dettes aujourd'hui. Et on a, contrairement à l'Allemagne, on a complètement décroché. On est aujourd'hui à 110% d'endettement public. Ça nous met dans le peloton de tête des pays les plus endettés. Et il faut savoir que 50% de nos créanciers sont à l'extérieur de la France. Donc, on est très dépendant en fait de nos créanciers pour maintenir la dette à un niveau soutenable.
Alors, c'est difficile c'est beaucoup de chiffres et c'est assez technique, mais si on essaie d'être le plus concret, le plus pédagogique possible, le gouvernement imagine en fait une série de scénarios. Il voit dans les prochaines années un recul de l'inflation, ça c'est assez concret. Il dit si les prix baissent, ça relancera la consommation des ménages, avec à la clé une baisse de l'épargne, une espèce d'engrenage vertueux. Ça non plus, c'est pas crédible.
Alors ça, c'est par contre fait crédible, c'est la bonne nouvelle. Donc l'inflation en 2024, elle est, et ça c'est pas la France qui le dit, c'est la Commission européenne, elle s'établirait à 2,7%. Donc on voit bien qu'elle est maîtrisée. Enfin, le but de la BCE, c'est 2%, mais enfin 2,7%, on a fait un gros travail. Et comment on est arrivé à ce résultat? En fait, c'est avec toute une conjonction de mesures, mais notamment la hausse des taux d'intérêt directeurs qu'émet la Banque centrale européenne, qui a causé une augmentation du coût du crédit donc dans notre pays comme dans tous les autres pays européens. De ce fait, les ménages, face à ça, on se sont mis à épargner. Ils ne pouvaient pas notamment acheter d'appartement parce que vous passiez quand le taux était bas, mais quand le taux sont plus hauts, on n'avait plus assez d'argent pour rembourser et donc on ne vous donne pas le crédit. Donc ce qu'on peut espérer, c'est ce qu'a annoncé Christine Lagarde, c'est que comme l'inflation est en passe d'être maîtrisée, et que les taux qui sont élevés créent de la récession, en tout cas freinent la croissance, on peut espérer que la Banque Centrale Européenne va baisser ses taux directeurs et donc que le coût du crédit va baisser. Et effectivement, dans ces conditions-là, avec une inflation maîtrisée, les Français vont se remettre à consommer. Ils ont épargné énormément. Juste pour regarder le livret A, depuis 2012, on a eu des records en 2022 de collecte de l'ordre de 35 milliards d'euros. On a un encours de plus de 510 milliards d'euros. C'est énorme parce que les Français ont épargné massivement pendant cette période.
En un mot, François Reynard, votre œil sur cet avis qui est quand même assez... cinglant, assez critique.
Alors justement, à ce propos-là, je voulais juste dire un petit mot pédagogique, hein, qui n'est pas polémique de rien, c'est qu'est-ce que c'est que ce Haut Conseil aux Finances Publiques? Ça sert à quoi? Parce que Pierre Moscovici, il parle au nom de cet Haut Conseil.
Absolument.
C'est quelque chose qui dépend de la Cour des Comptes. La Cour des Comptes, elle est chargée de regarder les dépenses de l'État, son boulot. Et puis il y a ce Haut Conseil qui a été créé spécifiquement en 2012, j'espère que je ne me trompe pas, pour contrôler ce qu'on appelle le pacte de stabilité, c'est-à-dire le fait que l'Europe dit, bon, maintenant, tout le monde est dans l'euro, mais il faut arrêter de sortir, d'avoir des déficits énormes, trop de dettes, etc. Et donc, on fait ce pacte de stabilité avec les Allemands, tous nos partenaires de l'euro. Et donc, le Haut Conseil, il est là pour dire au gouvernement, faites attention, vous n'allez pas tenir cette stabilité que vous devez à l'euro. Donc, il est dans son rôle. Je veux dire, Moscovici, là, tout le monde le voit comme un ancien ministre des Finances socialiste, mais là, il est dans son rôle. Il est payé, en quelque sorte, c'est un haut fonctionnaire payé pour dire au gouvernement, attention, vous allez vous déraper.
Hein, bon, voilà. On continue après le point sur l'info, si vous voulez bien, puisqu'il est 20h30. Et bonsoir, Édouard Marguier.
Bonsoir Bérangère, bonsoir à tous. Un mineur toujours en garde à vue après l'agression mortelle d'un homme à Grande-Synthe dans le Nord, c'est ce qu'annonce le parquet de Dunkerque. La victime de 22 ans a été rouée de coups et laissée pour mort sur le parking d'un supermarché. Deux autres agresseurs présumés sont recherchés par la police. Ce fait divers illustre le surgissement de l'ultra-violence chez les plus jeunes, comme dit Emmanuel Macron pendant le Conseil des ministres. Le président demande à son gouvernement de lancer demain une grande concertation sur le sujet pour tenter de trouver des solutions. De l'aide pour la bande de Gaza arrivera par le port d'Ashdod. Des stocks de farine du programme alimentaire mondial passeront par ce port israélien situé au sud d'Israël, proche de l'enclave palestinienne. C'est ce qu'annonce la l'armée israélienne dans le cadre des efforts annoncés pour aider l'enclave au bord de la famine. Jusque-là, un seul passage était ouvert. La plupart des camions entraient par le point de passage de Rafah. Le président ukrainien remet la pression. Volodymyr Zelensky dit au chef de l'OTAN que l'Ukraine a besoin de mesures immédiates pour renforcer ses défenses anti-aériennes. Déclaration après une nouvelle frappe russe. Il y a eu au moins 17 morts et plus de 60 blessés à Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine. Les conséquences toujours plus grandes du réchauffement climatique. La grande barrière de corail au nord-est de l'Australie subit actuellement le pire épisode de blanchissement jamais observé. 73% de ses récifs sont endommagés selon l'autorité qui la gère. Blanchissement provoqué par la hausse de la température de l'eau. Un grand club européen va quitter la Ligue des champions de football ce soir. Manchester City reçoit le Real Madrid en quart de finale retour. Il y a eu trois partout entre les deux derniers vainqueurs de la compétition lors du match aller la semaine dernière. Autre match à suivre ce soir, le Bayern Munich qui reçoit Arsenal, qui avait eux aussi fait match nul la semaine dernière, 2-2.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
On parle de déficit avec François Reinhardt, chroniqueur au Nouvel Obs, auteur, je vais le signaler, de votre dernier livre, La Grande Histoire de la Russie, aux éditions Flammarion. Elsa Fresnella, grand reporter aux Échos. Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Et Emmanuel Auriol, l'économiste qui nous éclaire sur ce sujet ce soir, professeur à la Toulouse School of Economics. Je finis le tour de table ici avant de revenir vers vous, Emmanuel Auriol. Vous retenez quoi, vous, Elsa Fresnella, de ce pacte, de ce programme de stabilité présenté ce matin?
D'abord, ça, vous l'avez dit que c'est quasiment une avoinée. Et ensuite...
C'est quasiment une avoinée. Le commentaire.
La vie du Haut Conseil aux Finances Publiques, qui, il faut le rappeler, est une institution collégiale avec des magistrats de la Cour des comptes, ouais. Des économistes, le directeur général de l'INSEE, c'est pas Pierre Moscovici tout seul. Hein. C'est fort. Et il dit aussi, en fond, ce qu'il dit au gouvernement, c'est vous devez choisir. Dans votre trajectoire budgétaire, vous dites que on sera à 3% en 2027 et qu'on aura aussi le plein emploi, la croissance, etc. Or, nous, dans nos projections, soit vous voulez de la croissance et il faut continuer à laisser filer le déficit, soit vous voulez réduire le déficit budgétaire, être à 3% en 2027. Et dans ce cas-là, faut tailler dans les dépenses ou augmenter les impôts, mais le faire de manière beaucoup plus sérieuse. Donc là, voilà, c'est en ça qu'il critique l'incohérence de la politique du gouvernement.
L'hypothèse de plein emploi en 2027, ça, elle est à nouveau présente, Stéphane Vernet, dans la présentation du programme de stabilité.
C'est pas qu'elle est à nouveau présente, c'est qu'elle a jamais été abandonnée, en fait. Mais il y a une dimension méthode couée, en fait, dans le discours.
C'est dans 3 ans. Hein.
Bah oui, c'est-à-dire que...
Ça veut pas dire zéro chômeur, il faut rappeler, d'ailleurs,
quand on dit plein emploi. C'est-à-dire que, en fait, c'est un gouvernement, depuis 2017, qui suit une politique qui consiste à dire on va relancer l'économie française à travers la croissance, le plein emploi. Donc, c'est des recettes en cascade pour l'État, et donc ça permet de financer tout un tas de choses, etc. Et donc là... Moi, ce que je vois, c'est qu'il change pas de discours, mais encore une fois, on est plus dans l'injonction et dans la méthode couée que dans la réalité. Là, le réel nous montre que là, pour le coup, ça passe pas. Comme Pierre Moscovici, il avait déjà fait une alerte au mois de septembre sur le même mode, en disant les prévisions de croissance du gouvernement ne correspondent en rien à celles des économistes, ça passera pas. Et ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redis, ça fait plusieurs années que les prévisions de croissance de Bercy et du gouvernement ne sont pas conformes à ce que disent les économistes. Mais jusqu'à maintenant, à chaque fois, ça passait quand même. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, le gouvernement arrivait à retomber sur ses pattes. Et là, pour la première fois, et c'est aussi là qu'il y a un petit choc, c'est que pour la première fois, cette espèce de fuite en avant, elle fonctionne pas. Et on voit bien que là, le pouvoir se prend le mur du réel.
Il y a eu quand même un très sérieux dérapage du déficit budgétaire en 2023 et que Bercy, manifestement, n'avait pas suffisamment anticipé. C'est-à-dire que quand on passe de 4,9 à 5,4 ou 5,5% du PIB, alors ça parle pas à tout le monde, mais c'est des masses énormes.
Et puis l'autre chose qui me paraissait aussi moi une relative incohérence, c'est que d'une part il y a un discours de rigueur, disons, enfin de rigueur budgétaire en tout cas de la part du ministre des Finances, et de l'autre part il y a Emmanuel Macron qui passe son temps à dire on est en économie de guerre, il faut soutenir le service public, etc. Donc on peut pas être d'un côté en économie de guerre, c'est-à-dire une économie de guerre, ça veut dire que le pays doit produire et être aidé par l'État, c'est ce que ça veut dire une économie de guerre.
On n'y est pas en économie de guerre.
On n'y est pas.
On a quand même un vrai problème macro depuis le Covid. C'est qu'à la fois, le gouvernement dit on veut baisser les déficits, et en même temps, tous les pays européens sont confrontés à un, et tous les pays du monde d'ailleurs, à un mur d'investissement nécessaire pour faire face au changement climatique, à la transition énergétique et maintenant à la guerre. Donc à un moment, tout ça rentre pas, ça ne s'équilibre pas.
Et Emmanuel... surtout, on a vu l'état de nos finances, on n'a plus aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'il y a plus de, il y a plus de capacité à cet état, vu l'état des finances, pour dégager justement de l'argent frais pour ce type de, pour faire face au mur d'investissement nécessaire face au réchauffement climatique.
Mais si vous permettez,
c'est là qu'on a un problème.
En fait, c'est une équation qui inclut beaucoup de données, et notamment le contexte international dont vous parliez, la transition énergétique, dont même la Cour des comptes dit que c'est une priorité. Emmanuel Auriol, est-ce que cet objectif des 3%, il est questionnable après tout? Est-ce que ça doit rester l'horizon absolu?
Alors, moi, je le trouve pas très réaliste, très clairement. Par contre, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit. Je pense que je suis pas tout à fait d'accord avec ce tableau extrêmement pessimiste qui vient d'être tracé, en particulier sur le chômage. Je crois que le gouvernement a quand même fait quelque chose de très efficace, puisqu'on a un chômage qui n'a jamais été aussi bas depuis alors des décennies et des décennies. Il est à 7,5. Il faut savoir que le chômage... Vous l'évoquez, hein, c'est pas zéro, bien évidemment, c'est 3-4%, parce qu'il y a toujours un chômage frictionnel quand on déménage, quand on est entre deux emplois. Donc, on est quand même à un niveau qui est très bas.
Ça veut dire que, pardon, je vous interromps, mais ça veut dire que le gouvernement a raison de garder cet objectif de plein emploi en 2027, dans 3 ans?
Ah, moi, je pense que ça, c'est une des voies, effectivement, qui peut nous sauver. En tout cas, qui peut sauver le budget de la France. Pourquoi on a une dégradation du déficit public? Tout simplement parce qu'il y a eu moins de croissance. Hein. Il faut savoir que le choc d'inflation plus les taux d'intérêt et en fait aussi les pénuries sur le marché du travail, puisque comme le gouvernement a réussi son pari de faire refluer le chômage, et ben, les entreprises peinent à trouver des salariés. Et ça évidemment freine notre croissance. C'est très embêtant. Mais en fait, la croissance a été plus faible qu'attendue en 2023. Et quand vous avez une croissance plus faible, les recettes sont plus faibles. Et c'est pour ça, en fait, que le déficit est plus élevé. C'est pas que l'État a plus dépensé vraiment que ce qui était prévu, c'est qu'il a moins engrangé que ce qui était prévu. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses positives, mais je pense que c'est pas réaliste, néanmoins, de dire qu'on va ramener notre déficit en faisant les investissements nécessaires dans la santé, l'éducation, la transition écologique, à 3% du PIB dans 2 ans. Je pense que ça, c'est ce qui me semble que dit le Conseil. Voilà, mais il ne faut pas dire que le gouvernement n'a pas, par exemple, tenu ses promesses sur l'emploi. Il a payé pour réformer, mais il a réussi à réformer.
Emmanuel Auriol, vous restez encore quelques minutes avec nous. On va laisser passer le fil info. 20h40, Stéphane Milhomme.
Les opérations PlaceNet ont permis ces dernières semaines de saisir 4 tonnes de drogue en France et 20 millions d'euros. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle maintenant de 490 opérations, dont plus d'une vingtaine dans les Outre-mer. Et il se rend d'ailleurs en Guadeloupe pour lancer une opération similaire. Volodymyr Zelensky dénonce une fois de plus le manque d'aide de la part de l'Occident. La défense aérienne de l'Ukraine demeure insuffisante face à la Russie. Réaction après la triple frappe et qui a fait au moins 14 morts et plus de 60 blessés dans une grande ville du Nord, Tchernigiv. Le fabricant français de panneaux solaires, Systovi, annonce la cessation de ses activités. Il emploie 87 salariés à Carquefou, c'est près de Nantes, mais Systovi n'est plus compétitive face à la production venue de Chine. Et puis le secteur de l'édition opposé au projet de publicité télé pour les livres, c'est pour l'instant une expérimentation. Le syndicat national de l'édition demande l'abrogation du nouveau décret et redoute un appauvrissement de la création littéraire. À ce jour, seul l'éditeur Ixo a diffusé un spot télé pour un de ses livres.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
On essaie de décortiquer ce programme de stabilité présenté par le gouvernement pour 2024-2027 qui a été très critiqué, on l'a dit, par le Haut Conseil des Finances Publiques. On était avec François Reynard du Nouvel Obs, Stéphane Vernet d'Ouest France, Elsa Fresnay des Échos et Emmanuel Auriol, économiste de Toulouse. On n'a pas parlé des impôts précisément parce que alors Pierre Moscovici dit d'ailleurs ce soir sur France Info, faut pas s'interdire cette question-là, contrairement à ce mantra que répète le président de la République, pas de hausse d'impôts. C'est quelque chose qui évidemment, le Conseil des finances publiques dit il va falloir tailler plus en termes de dépenses, mais on peut aussi imaginer plus de recettes, Stéphane Vernet.
Bah oui, évidemment.
Est-ce que ça repose cette question-là?
C'est-à-dire que le problème, c'est que ça fait partie aussi des promesses et de la politique qui est conduite. C'est-à-dire qu'il y a quand même, l'idée que ce gouvernement baisse de manière continue et soutenue les impôts, notamment pour la classe moyenne. Donc, quand vous supprimez la taxe d'habitation et que vous la compensez auprès des collectivités par des dotations supplémentaires, vous amputez le budget de l'État de dizaines de milliards. Et donc, quand vous accumulez toutes ces réductions d'impôts dans la durée, effectivement, vous baissez les recettes. À partir du moment où la croissance et la dynamique est plus là et qu'effectivement les recettes de l'État baissent et que vous avez plus en fait ces leviers là où vous pouvez moins les actionner, bah forcément c'est beaucoup plus compliqué.
Elsa Fresnay.
En matière d'impôts, je dirais que il y a plusieurs visions. Il y a la vision mathématique, effectivement. Si on baisse les recettes de l'État, à un moment, on peut plus financer les services publics, les investissements du futur, etc. Mais il y a aussi la dimension politique et humaine. Et s'agissant des ménages, parce que il y a aussi le Macron en 2017 a fait un pari. Il fallait baisser le coût du travail, donc baisser les charges sur les entreprises. C'est le seul truc vraiment. La seule politique qu'il a tenue dans la durée depuis 2017, où il n'a pas varié, etc. S'agissant des ménages, la tentation, et on l'entend pour une question de justice sociale, on dit taxons les ultra-riches, etc. Là, on revient juste aux mathématiques, c'est que, oui, taxer les ultra-riches, ça rapporte finalement très peu au budget de l'État. Et donc, quand on commence à parler de hausse d'impôts pour les ménages, si on veut que ça rapporte, il faut toucher les classes moyennes. Or, politiquement, précisément, c'est les classes moyennes que cet exécutif veut conserver.
L'acceptabilité par les classes moyennes, elle passe peut-être par la taxation des profits ou des très hauts revenus.
Oh bah oui, parce que moi, j'entends bien les raisonnements qui sont tenus par nos camarades de l'autre bout de la table, qui ont tout à fait des raisonnements économiques. Mais là aussi, il faut voir que du côté du gouvernement, il y a quelque chose qui devient idéologique. C'est un gouvernement qui prétend être pragmatique. Le macronisme, c'est censé être un peu à droite, un peu à gauche, etc. Et donc ne pas avoir de tabou sur quoi que ce soit. Là, il y a un énorme tabou qui est le mot impôt. Pourquoi c'est un problème? Effectivement, comme vous le disiez très justement, même sur un plan moral, quand on entend encore le salaire du PDG, je sais même plus de quoi il est PDG, tellement j'étais scandalisé par le chiffre qu'on entendait.
Bon voilà. Franchement, il y a 20 millions et demi.
Et on entend ça tout le temps. Enfin, les gens ont de quoi être en colère avec ça quand même. Donc, augmenter les impôts des plus riches, même si ça rapporte pas tant que ça, c'est peut-être un signe, quoi, de dire, voilà, le pays est en crise, c'est compliqué, il y a la guerre qui approche, etc. Tout le monde doit s'y mettre. Et tout le monde doit donner sa contribution.
Le mot de la fin peut-être pour vous, Emmanuel Auriol, et c'est vrai que le contexte international joue peut-être aussi, mais on ne peut pas tout aborder, mais sur cette question des impôts qu'on évoquait notamment.
Oui, alors il faut quand même rappeler aux auditeurs que la France est un des pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés au monde. Hein, donc c'est pour ça que l'État s'est engagé dans... Donc moi, je pense qu'il faut comprendre que un État qui est très protecteur, les Français demandent ça. Ce modèle social a un coût, et si on veut préserver l'essentiel, c'est-à-dire la santé, l'éducation, notre capacité à être autonome dans le monde tel qu'il est, il faut accepter donc qu'on doit être plus sobre collectivement, et il faut évidemment essayer de taxer les entreprises qui font des profits extraordinaires, notamment l'énergie. Mais quand Bruno Le Maire a essayé de le faire, je vous rappelle qu'il aura cet impôt a rapporté 10 fois moins que ce qu'il avait prévu. C'est très compliqué parce qu'on est dans un monde ouvert. Mais voilà, donc je pense qu'il devrait avoir des négociations aussi internationales pour essayer de coincer ces entreprises qui comptent sur les États pour stabiliser le monde, mais qui refuse de contribuer à l'effort collectif. Pour la France, en attendant, pour les Français, les classes moyennes en particulier, on doit tous collectivement avoir conscience qu'effectivement, il va falloir être plus sobre. Je pense que c'est ça le mot de la fin.
Merci beaucoup, Emmanuel Auriol, économiste, donc professeur à la Toulouse School of Economics. Et donc, les ministres iront défendre, Elsa Fresnay, ce pacte devant la Commission de Bruxelles.
Absolument.
Dans quelques semaines.
Oui, c'est un exercice auquel les ministres doivent se prêter chaque année. Après, les réactions sont forcément diplomatiques. C'est-à-dire que c'est pas vrai que nos partenaires croient au plan que d'ailleurs on n'a jamais respecté. Les trajectoires budgétaires, c'est simple, on les respecte jamais. Donc après, c'est à quel niveau elle est crédible.
Stéphane Bernet critique.
Ben non, mais le problème, c'est que nos voisins européens, la plupart de nos voisins, ils sont revenus au-dessous de la barre des 3%. On est les derniers. Donc, il y a un moment, ça va devenir très difficile à justifier, quoi.
Allez, on parle de ce meeting annulé à ce stade, en tout cas annulé à l'Université de Lille, qui devait évoquer, c'était le thème, l'actualité de la Palestine. L'université estime que les conditions ne sont plus réunies pour garantir la sérénité des débats. Jean-Luc Mélenchon devait y prendre la parole demain, tout comme la candidate LFI aux européennes, Rima Hassan, militante franco-palestinienne. La France insoumise affirme qu'elle trouvera un autre lieu d'ici demain, mais crie à la censure. On va écouter David Guiraud, le député insoumis du Nord.
C'est évidemment de l'ordre de la censure politique, mais une censure politique qui ne vient pas de nulle part, qu'il faut replacer dans un contexte, qui est un contexte de criminalisation des paroles qui ont défendu le peuple palestinien depuis des mois. On nous accuse de tous les maux, on a des chaînes d'information qui tournent en continu pour nous expliquer qu'on est des agents du Hamas, certains députés ont été menacés physiquement, il y a une volonté d'une partie de l'extrême droite, mais aussi maintenant du pouvoir, de nous criminaliser parce qu'on porte une voix de paix, parce que nous ne soutenons pas inconditionnellement Israël dans son opération de génocide, et parce qu'on met des mots, c'est vrai, on met des mots sur ce qui se passe à Gaza, on parle de génocide. Donc c'est assez préoccupant que l'université embraye malheureusement sur l'interdiction de cette conférence.
Voilà, alors François Reinhardt, il faut dire aussi que depuis le début de la semaine, de nombreuses voix, ORN, chez LR, chez Renaissance et à gauche, réclamaient cette...
À gauche, j'ai pas entendu.
La gauche,
moi,
ne réclamait pas l'annulation, mais la gauche... il y avait une espèce de malaise, il y a eu des voix au PS notamment, qui sont aujourd'hui ciblées par les insoumis, notamment Jérôme Guedj, qui pointait l'un des co-organisateurs, en fait, l'association Palestine Libre.
En fait, le problème, alors, je dois dire par rapport de manière générale, moi je suis assez mal à l'aise, j'aime pas que, surtout dans une période électorale, on empêche les gens de s'exprimer, ça me paraît pas convenable dans une démocratie. Évidemment, s'il y a des paroles antisémites qui sont exprimées, ça, elles sont interdites par la loi. Donc l'antisémitisme doit être combattu de toutes les manière possible. Mais là, j'ai entendu,
est-ce qu'il y avait
par exemple,
un risque.
Voilà.
C'est
oui, mais il y a Monsieur Chenu, qui est député d'extrême droite, qui ose dire des propos antisémites auraient pu être tenus. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on condamne au conditionnel maintenant. Bon. Donc c'est quand même un gros problème. Alors après, il y a cette histoire qu'effectivement, cette association, l'association qui invitait le LFI, Rima Hassan et Mélenchon, est une association lilloise. Et sur son logo, elle représente une carte du Proche-Orient dans laquelle on voit un seul pays dans lequel il y a à la fois ce qui est aujourd'hui les territoires palestiniens et Israël, un seul pays, ça veut dire Israël est gommé, de fait. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui pose problème, parce que ça veut dire qu'il y a la suspicion que c'est des gens qui veulent éliminer Israël. Moi,
dans la solution à deux États.
Voilà, j'entends cette peur-là, et j'entends qu'il y a des gens qui disent on veut pas qu'Israël soit la ligne de la carte. Mais il faut bien savoir que de l'autre côté, à ce moment-là, il faut faire la même affaire pour les gens qui rayent les territoires palestiniens de la carte. C'est-à-dire qu'il faut savoir que M. Netanyahu, en septembre, il était à l'ONU avec une carte dans laquelle il y avait ce qu'il appelle le Grand Israël, c'est-à-dire tous les territoires palestiniens étaient gommés. Et d'autre part, M. Smotrich, qui est un de ses ministres, il était il y a un an en France exactement, et il présentait une carte de ce qu'il appelle Israël, dans laquelle il y avait Israël, les territoires palestiniens et la Jordanie. Et ça n'a pas été interdit, cette manifestation. Donc, c'est pas sain qu'on interdise d'un côté et qu'on n'interdise pas de l'autre. M. Meir Habib, qui est député républicain, il passe son temps à nier le fait que la Cisjordanie ait vocation à devenir un État palestinien.
Député d'étrangers incluant la zone...
Bon, et lui, il est LR. Pourquoi les LR ne demandent pas l'exclusion de M. Habib à ce moment-là?
Alors, on poursuit cet échange à 20h51. D'abord, le fil info, Stéphane Milhomme.
À Grande-Synthe, dans le Nord, deux adolescents de 14 et 15 ans sont maintenant en garde à vue. Une interpellation après le tabassage d'un jeune de 22 ans, mort des suites de ses blessures. Une autopsie a été demandée par les enquêteurs. Au total, trois suspects sont donc recherchés. Emmanuel Macron demande à Gabriel Attal de lancer une grande concertation sur ce problème de la violence des jeunes. C'est un programme de stabilité sûr, cohérent et responsable. Les mots de la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, après la présentation des mesures ce matin en Conseil des ministres, une réponse au Conseil des finances publiques qui estime que les annonces manquent de crédibilité. Le but est de faire des économies pour amener le déficit public sous les 3% du PIB à l'horizon 2027. Le contingent russe commence son retrait du Haut-Karabakh, une annonce du Kremlin 7 mois après la reconquête par l'Azerbaïdjan de cette enclave contrôlée pendant 3 décennies par des séparatistes arméniens. 2000 soldats russes étaient installés pour faire respecter le cessez-le-feu. Et puis vous saurez en fin de soirée les noms des deux dernières équipes qui joueront en demi-finale de la Ligue des Champions. Coup d'envoi d'ici 10 minutes des quarts de finale retour. Le Bayern de Munich face à Arsenal, Manchester City face au Real Madrid.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Elsa Fressonnet est là pour les Échos, Stéphane Vernet pour Ouest France et François Reynard pour le Nouvel Obs. On parle de cette conférence donc annulée à ce stade par l'Université de Lille qui était prévue demain avec Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan pour parler de Palestine. David Guiraud disait tout à l'heure, on met des mots sur ce qui se passe. Sous-entendu, on est les seuls à le faire, à parler de la Palestine. C'est exact ? Stéphane Vernet ?
Non, c'est pas les seuls à parler de la Palestine, pas du tout. Moi, je pense que c'est pas le. Là, c'est le narratif qui cherche à construire, mais ça a pas de sens. Je veux dire, il y en a d'autres qui parlent de la Palestine, tout le monde parle de la Palestine, peut-être pas de la même manière, c'est tout. Mm-hmm.
Si on va plus loin, ce qu'il essaie de dire, c'est que le bilan terrible, le carnage de ce qui se passe en ce moment à Gaza, ils sont les seuls, c'est ça qui sous-entend, à le pointer aussi clairement.
Il me semble que la France, l'État, par la voix de sa diplomatie, de son président de la République, etc., disent qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent cesser immédiatement, la gravité de la situation est reconnue et il n'y a pas le blanc-seing donné à Israël qu'on a pu observer, entendre juste après les massacres du 7 octobre. Exactement. Mais si vous voulez, il y a quand même une partie de la classe politique et médiatique dans ce pays qui est capable de dire Israël va beaucoup trop loin et doit s'arrêter et reconnaître qu'en même temps, ce qui s'est passé le 7 octobre était de l'ordre d'un massacre innommable, inadmissible et que c'était pas une réaction normale à une situation d'oppression. Enfin voilà. Et là, je pense qu'il y a une différence de vue qui est fondamentale. Je pense que du côté des insoumis, il y a eu un certain nombre de choses qui ont pu être dites ou pensées.
Ils payent ça aujourd'hui encore dans cette décision-là, les insoumis, d'avoir à ce point tardé à dire clairement les choses.
Moi, je travaille au Nouvel Obs, je vais certainement pas défendre les. Enfin, je suis pas du côté des insoumis. Moi, on est un journal traditionnellement social-démocrate, donc Mélenchon nous déteste depuis toujours. Mais en tout cas, sur cette question-là, il faut bien voir que ce qui est désagréable dans le débat, c'est qu'il faut pas constamment criminaliser la parole de l'autre. Quand quelqu'un défend Israël, il y a des tas de défenseurs d'Israël et ils ont raison de le faire. Et je l'entends et j'écoute ce qu'ils ont à dire, etc. Je ne pense pas immédiatement que ce type est une espèce de cinglé qui veut tuer tous les Arabes en Cisjordanie, alors qu'il y en a des colons fous. Hein, bon voilà, mais je pense pas que quelqu'un. Bon, eh bien de la même manière, Rima Hassan, qui est née dans un camp palestinien, elle est née dans un camp de réfugiés. Sa famille était par les le malheur de l'histoire en 48 a dû fuir Israël et se trouver dans un camp de réfugiés. On peut écouter la parole de cette femme. Elle a le droit, elle a une légitimité à parler aussi, quoi. Et on n'est pas obligé tout de suite de l'écraser en disant tu es antisémite, etc. Moi, c'est ça que je n'aime pas. Je veux dire, ce débat-là, encore une fois, tous les hommes de la planète, les hommes justes, disent il y a deux légitimités, il doit y avoir deux États. Les Israéliens ont droit à un État et à vivre en sécurité, et les Palestiniens ont droit à un État et à vivre en sécurité. Eh bien, c'est ça qu'il faut défendre, et on n'aide pas ce débat-là en écrasant l'autre, en disant toi, tu oses défendre Gaza, donc tu es un antisémite. C'est pas possible.
Mais là, en l'occurrence, l'université décide d'annuler la conférence, mais c'est aussi pour des raisons de sécurité. C'est qu'ils sont pas sûrs que les, ils ont la trouille que les choses donnent lieu à débordement.
La question,
mais
c'est pourquoi ça a
pas forcément
cette ampleur,
dans le verbe
en fait.
Aussi que ça donne lieu à des affrontements, etc. Et en gros, c'est une façon de dire, nous, on n'a pas les épaules pour accueillir un rendez-vous comme celui-là qui potentiellement peut dégénérer ou peut alors, on peut et on doit le regretter. Mais en même temps, l'université, elle n'est pas forcément calibrée pour ça. Et Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il tiendrait quand même son rassemblement à Lille dans un autre lieu. Je ne suis pas sûr que derrière, il y ait une espèce de volonté d'écraser ou de censurer
la parole. Je pense qu'à l'université de Lille, ils ont le souvenir de l'épisode de Sciences Po d'il y a un mois. Hein, vous savez, avec cette chose qui est qu'on entend à la radio, à la télé, etc., qu'il y a une étudiante qui voulait aller à un meeting qui est effectivement plutôt en défense de la Palestine et que cette femme était exclue parce qu'elle était juive. Si ça s'est passé, c'est honteux. Et bien sûr, c'est honteux. On doit se battre contre ça. On doit se battre de manière farouche contre l'antisémitisme. Mais sauf que personne ne sait si ça s'est passé ou pas, puisqu'on n'arrive pas à le prouver. Il y a une enquête qui est lancée, on n'a toujours pas le fin mot de l'histoire. Mmh. Et immédiatement, sitôt que cette chose a été lancée, le gouvernement a foncé tête baissée en disant c'est scandaleux, Sciences Po est devenu antisémite, etc. C'est pas possible.
Gabriel
c'est pas
Attal,
possible. On est dans une démocratie, on doit respecter la parole de l'autre quand même.
Pour conclure, mais ça prend aussi beaucoup d'ampleur, peut-être parce que au sein de la gauche, ça marque... Peut-être définitivement, je ne sais pas, une forme de rupture et l'explosion de ce qui pouvait rester éventuellement de la NUPES.
Ah bah clairement, vu les réactions, pour la petite histoire, un des premiers socialistes à être insurgé, Jérôme Gage, et l'ancien...
Insurgé de la conférence.
Ouais, et l'ancien assistant parlementaire de Jean-Luc Mélenchon quand il était encore au PS. Donc il y a des histoires de famille qui se règlent. Plus sérieusement, ce que je trouve un peu dramatique pour la démocratie française, c'est que on somme chaque citoyen français de se positionner sur un conflit qui dure depuis 70 ans, qui a connu des hauts, des bas, des espoirs de paix, etc. Jusqu'à présent, c'était les représentants et des Israéliens et des Palestiniens en France qui travaillaient les communautés pour que les Français se positionnent. Maintenant, ce qui est dramatique, c'est que les politiques sont entrés dans la danse.
François Reynard, je signale que vous dirigez pour le Nouvel Obs un ouvrage qui vient de paraître assez passionnant, 3000 ans, 33 ans, 33 dates plutôt.
C'est ce qui s'appelle La tragique et fascinante histoire de la Terre promise. Effectivement, il y a 33 chapitres, courts ou longs, qui sont chacun une date depuis le royaume d'Israël du roi David, là on est en 1000 avant Jésus-Christ, jusqu'au 6 octobre. On s'est
arrêté chez Liana Lévy. Très rapidement, la une du Lops, de Nouvel Obs.
C'est sur Salman Rushdie, vous savez, qui sort un nouveau livre qui s'appelle Le Couteau, et il y a les extraits du livre, des bonnes feuilles qu'on dit.
Stéphane Vernet à la une de West France.
Nous, on parle des professeurs non remplacés, l'alerte des parents d'élèves sur cette problématique récurrente.
Et à la une des Échos demain, Elsa
Fressonnet. Forcément, les comptes publics, la France manque de crédibilité.
Merci à tous les trois. Demain, les informés du matin 9h, Jean-Rémy Baudot, Renaud Deligne. On sera là dès 20h. Bonne soirée.